La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une nouvelle émission de La Parole au Travail. Ce sera une émission un peu différente du reste de cette série. Pour la première fois, il ne s'agira pas d'entendre quelqu'un nous parler de son travail, de ce qu'il pense de son travail. Nous entendrons aujourd'hui un économiste, Bernard Friot. Bernard Friot est sociologue et économiste, professeur émérite à l'Université de Nanterre. Il a écrit en 2017 un livre « Vaincre Macron ». Bernard Friot est spécialiste de la création et du fonctionnement de la sécurité sociale. De passage à Marseille, accueilli par l'association d'éducation populaire Réseau Salariat, il nous a accordé un entretien, pour lequel nous le remercions. Cet entretien a porté sur les enjeux des modes de financement et d'administration de la sécurité sociale, c'est-à-dire sur les enjeux politiques de l'administration et du partage de la valeur produite par le travail. C'est là un enjeu d'actualité, notre gouvernement voulant, à la suite des gouvernements précédents, transformer les principes de ce financement. Pour Bernard Friot, les enjeux de ces réformes ne sont pas seulement ceux d'un fonctionnement administratif, qu'une technique pleine du bon sens des experts permettrait d'améliorer. Ces enjeux sont politiques, sont ceux de la définition du travail et de la valeur produite par le travail, ceux de la définition de la solidarité entre les personnes et des institutions en charge de cette solidarité. C'est la question du pouvoir des citoyens, des travailleurs, sur la valeur produite par leur travail. Bonne écoute.
Quand on parle de sécurité sociale, on pense à la carte vitale et au remboursement des soins de santé. En réalité, la Sécu, c'est bien plus que ça. Elle gère aussi les pensions de retraite, les allocations familiales, les accidents du travail. Elle fait partie, comme l'assurance chômage, d'un immense système de solidarité collective créé officiellement il y a 70 ans. En 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout le pays est à reconstruire. La situation sanitaire et démographique est préoccupante. Le parc de logements est dans un état désastreux. La plupart des personnes âgées ne disposent pas de retraite et la mortalité infantile est très élevée. C'est dans ce contexte que les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945 matérialisent le projet de sécurité sociale. L'objectif ? Débarrasser les citoyens de l'incertitude du lendemain. Concrètement, il s'agit de créer un vaste système national d'entraide collective et obligatoire permettant de consolider la solidarité entre actifs et non-actifs, bien portants et malades, riches et moins riches. Des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales sont ainsi créées afin que chacun puisse se protéger des risques de l'existence, en particulier lors des périodes les plus critiques de la vie.
C'est donc un document qui est... Bonjour tout d'abord, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un document qui a donc été produit pour le 70e anniversaire des ordonnances d'octobre 1945, et qui effectivement raconte l'histoire officielle. Il était une fois une France dans laquelle pauvreté, misère, démolition liée à la guerre avaient entraîné bien des malheurs et des souffrances, et que la sécurité sociale était apparue alors pour... sécuriser les personnes et leurs ressources par de la solidarité. Ou alors pourquoi j'appelle ça la belle l'espoir, je fais référence à PEF, une histoire que je racontais à mes gamins, la belle l'espoir du prince de Motordu. Oui, c'est une fantaisie cette histoire-là, hein, qui, cela dit, qui a quand même une énorme intériorisation. Quand on pense sécurité sociale, on pense 45 et on pense solidarité. Ça, je crois que les deux mots qui viennent tout de suite, c'est ça. Ces deux mots sont à critiquer. 45 parce que en 45, tout existe déjà. Hein, le cœur du dispositif, c'est les allocations familiales qui ont été créées à la fin du 19e siècle dans la fonction publique et puis qui vont s'étendre progressivement au secteur privé dans les années 30. Les assurances sociales de 1930 qui assurent une couverture obligatoire en matière de santé et de vieillesse. C'est la couverture obligatoire des actions du travail qui existe depuis 1898. Quand on prend donc les branches qui sont évoquées hein, dans ce documentaire, il n'y a rien à créer en 45. Tout est là. Et tout cela représente plus de 1000 caisses assez dispersées selon les branches, les professions. Donc on a une espèce de fouillis institutionnel. Mais qui est très présent. Enfin, pensez que ce documentaire est d'un misérabilisme extrêmement curieux. Enfin, pensez qu'il n'y avait rien, qu'on était dans une espèce de laisser aller de la misère, de la souffrance, tout ça, c'est quand même un peu aberrant. On est un pays capitaliste très avancé, avec une sécurité sociale très avancée en 45. Donc, ce qui se passe en 46, c'est quelque chose de nouveau qui n'est pas cela, qui n'est pas tout cela, hein, qui n'est pas ces allocations familiales gérées par les patrons, ces multiplicités de caisses, cette gestion paritaire, patronat, syndicat des assurances sociales, enfin, etc. Ce qui se passe, c'est en s'appuyant là-dessus, bien sûr, hein, mais en le détournant et en lui donnant une finalité, un mode de gestion tout à fait autre, il y a création du régime général de sécurité sociale. Ça, c'est la nouveauté. Là, il y a bien une nouveauté.
Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse.
Ce système de redistribution va se perfectionner et s'étendre tout au long des Trente Glorieuses.
Le mot utilisé est solidarité, hein, mais il y a une forme de solidarité qui crée des droits, hein, bien sûr, dans ce sens c'est différent de la charité, mais qui relève de la même logique que la charité. Hein. C'est une juridicisation en quelque sorte de la charité qui est la solidarité de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas, hein, comme le dit ce documentaire quand même qui est récent, hein, qui date de 2015, on est un peu ahuri de cette capacité à répéter des sornettes dans un document officiel, hein, qui annonce la célébration des 70 ans du dispositif. C'est une solidarité qui va de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas. Hein, ou plus exactement, on va définir des personnes par leur manque. Hein. Ils sont malades, ils sont sans emploi, ils sont vieux, ils sont je ne sais pas quoi. Et il s'agit pour bien ceux qui sont célibataires d'être solidaires des chargés de famille, pour ceux qui sont bien portants d'être solidaires des malades, pour prendre des exemples classiques. Et donc, effectivement, le mot solidarité doit être discuté, tout comme le mot 45, parce que c'est pas du tout ça qui se passe là. Plus exactement. Donc on est dans de la solidarité que j'appelle capitaliste, hein, la solidarité de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas. L'enjeu de 46, c'est de sortir de ce type de solidarité. La sécu en tant que solidarité de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas, c'est effectivement un dispositif tout à fait classique dans le capitalisme. Hein. D'ailleurs, on va y revenir pour les allocations familiales avec Rocard, hein, qui va dire ben c'est pas, il n'y a pas de raison que ce soit une cotisation liée au salaire qui finance les allocations familiales, ça doit être un impôt de solidarité, la CSG, pour financer des appauvris, hein, c'est-à-dire les parents qui ont des coûts de l'enfant à supporter, et donc ben, il faut être solidaire des appauvris. On a toujours la même logique, hein, qui est une logique capitaliste. C'est contre cela que le régime général se met en place, et j'espère que notre entretien va pouvoir permettre de le mettre en évidence. C'est en faveur, elle, d'une solidarité communiste. J'insiste beaucoup dans vaincre Macron, et je mets le mot communiste sur la table. La solidarité communiste, c'est une solidarité qui est celle, non pas de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas, hein, qui ne méprise pas une partie de la population au point de la définir par son manque, hein, mais une solidarité de gens qui sont absolument égaux et qui se serrent les coudes parce qu'ils sont en train de mettre en place des institutions nouvelles du travail, des institutions du travail anticapitalistes. Et je souhaite vraiment que ce soit ça qui soit compris dans ce que j'ai à dire sur 46. 46 transforme des institutions multiformes déjà là, hein, il n'y a aucune création de sécurité sociale, mais les transforme de façon énorme. Il retourne en quelque sorte le gant pour faire du régime général une ponction sur la valeur économique créée par notre travail. Cette ponction s'opère par une cotisation, hein, et cette cotisation, c'est les travailleurs eux-mêmes qui la gèrent. Hein. Et ils la gèrent pour changer la définition, la pratique du travail. Ils vont dire et faire en sorte que les retraités, pour reprendre cet exemple, hein, ils n'ont pas droit à la contrepartie de leur cotisation passée. Ce n'est pas de la solidarité intergénérationnelle qui est à la base du droit de pension, c'est pas du tout ça. Hein. Les retraités, ils ont droit à la poursuite de leur salaire, ils ont droit à un taux de remplacement, voilà les mots clés, hein, du régime général en matière de retraite, taux de remplacement d'un salaire de référence. Le salaire de référence, il est dans l'optique des créateurs du régime général le meilleur salaire, celui des 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique. Et le taux de remplacement, c'est 75% du brut, c'est-à-dire 100% du net, compte tenu du poids des cotisations salariées dans le financement du régime général. Donc, dire que les retraités ont droit à 100% de leur meilleur salaire net, c'est pas du tout dire qu'ils ont droit à de la solidarité intergénérationnelle dans la récupération à travers les cotisations des actifs actuels, des cotisations qu'ils ont eux-mêmes mis au pot commun quand ils étaient actifs. Mais c'est dire tout à fait autre chose. Les retraités ont droit au salaire parce que les retraités travaillent, c'est-à-dire les retraités produisent de la valeur.
Ce qui plombe l'Europe et ce qui plombe l'Occident, et même maintenant le monde, ce sont les États-providence. Quand vous lisez l'ordonnance de 1945, qui est une ordonnance totalement communiste, il faut le savoir.
Pourtant, Larocque, qui rédige ces ordonnances, n'était pas un communiste, pour le coup.
Il n'était pas communiste, mais il était fortement imprégné par les idées communistes. Je pense que c'était un homme qui, comme beaucoup de personnes généreuses, sans doute, avait oublié un dicton fameux, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, il avait de bonnes intentions, je n'en doute pas un instant, mais il a créé l'enfer. Car si aujourd'hui nous sommes en France dans une situation aussi difficile, c'est bien à M. Larocque et surtout à tous ceux qui ont, avec enthousiasme, adopté ces propositions, parce qu'ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fonds politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. La France est un pays communiste. C'est le dernier pays communiste, ça, beaucoup de gens le disent, avec Cuba et la Corée du Nord. La France est un pays communiste à tel point que le Parti communiste n'existe plus. On n'a plus besoin de lui, tout le monde est communiste.
Bien, ce que dit la loi Croizat d'août 46, c'est que les allocations familiales, qui étaient jusqu'alors ce qu'on appelait un sursalaire familial, qui supposait que les bénéficiaires soient dans l'emploi, hein, un chargé de famille qui était en arrêt de maladie ou au chômage ou en retraite n'avait pas droit aux allocations familiales, il fallait qu'il soit dans l'emploi, c'était un salaire lié à l'emploi. Et ce que fait la loi d'août 46, elle déconnecte complètement les allocations familiales de l'emploi. N'importe qui, dès lors qu'il a deux enfants, y a droit, sauf quelques exceptions qui seront levées en 78, mais très peu. C'est du salaire au sens où, un, c'est financé par les employeurs. Deux, c'est pour deux enfants en 46, 225 heures de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, ce qui représente plus que le salaire d'un ouvrier spécialisé de la métallurgie, puisque à l'époque, il ne faisait pas 225 heures par mois, même s'il travaillait plus qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas à 2500 heures par an. Mais en réalité, en attribuant du salaire aux parents, et un salaire élevé, hein, encore une fois, plus que le salaire d'un OS de la région parisienne, d'un OS de la métallurgie, eh bien, on inaugure une extension du champ du travail, hein, qui n'est plus réduit à l'emploi, mais qui devient, par exemple, le fait de parents. Or, en quoi ça ça n'est pas capitaliste? En quoi le fait de dire seuls les parents qui ont un emploi peuvent avoir des allocations familiales est capitaliste? Ben, c'est capitaliste, ça veut dire un certain discours, une certaine pratique du travail, hein, un mode de production. Il se caractérise par une définition de ce qui a valeur, hein. Si nous avons des tas d'activités en permanence, mais toutes ne valent pas, hein. On peut conduire des gamins à l'école en tant que parent, ça vaut pas. C'est pas du travail. On peut en revanche conduire des gamins, les mêmes gamins, sur le même trajet, vers la même école, mais c'est une assistante maternelle qui s'en charge. Là, ça vaut, hein, d'accord. Donc c'est pas la matérialité de ce qu'on fait qui décide si c'est du travail ou non. C'est quoi? Ben, c'est les rapports sociaux. Et dans le capitalisme, on va appeler travail toute activité qui met en valeur du capital. Donc, un retraité, bon, bah, faut un parent, ça ne met pas en valeur de capital, donc ça ne travaille pas. Hein. Et donc, à quoi ont droit les parents ou les retraités? Bah, de la solidarité. Hein. Alors, ce que dit le régime général, non, précisément. Les parents ont droit au salaire, les retraités ont droit au salaire, les parents et les retraités travaillent. Là, nous sommes dans une logique qui fait sortir le travail du carcan capitaliste et... J'ai quelques raisons de l'appeler communiste, mais peut-être que l'entretien permettra de le montrer.
La vocation du projet de la sécurité sociale est de se généraliser à l'ensemble de la population, de l'accompagner dans ses évolutions et de mieux la protéger des accidents de santé ou des risques sociaux. En 1958, aux côtés de la sécurité sociale, naît ainsi l'assurance chômage, qui contribue également au développement des centres de formation professionnelle.
Cette histoire-là, c'est pour ça que je l'appelle la belle histoire, hein. C'est une histoire très lisse, hein, qui fait comme si, dans l'unanimité des communistes gaullistes, on appliquait le programme du CNR, tous unis, tous frères, pour faire de la solidarité. Bon, c'est évidemment une fable totale. Et il faut au contraire restaurer l'angle vif de ce conflit, hein, cette lutte de classe. Alors, venons-en justement en quoi la solidarité pour étendre le champ du travail est anticapitaliste. Bien parce qu'encore une fois, le rapport social dominant, hein, et ce qui détermine la dynamique sociale, c'est la définition du travail. Qui travaille? qu'est-ce qui, dans ce que nous produisons, on passe notre temps à être actif et à produire plein d'objets et de services. Hein. Toute notre vie éveillée, c'est d'être actif, hein, si on appelle l'activité la production de valeurs d'usage, d'objets et de services qui vont être utiles. L'enjeu décisif de la dynamique sociale, c'est qu'est-ce qui, dans cette activité, vaut ? Qu'est-ce qui dans cette activité a valeur économique ? Qu'est-ce qui dans cette activité est du travail ? Puisque le travail, c'est la partie de l'activité qui est réputée valoir. Ça, ceux qui décident de ce qui est travail ont la main sur la dynamique sociale parce qu'ils vont organiser la production et orienter le travail concret dans le sens de leur définition à eux du travail. Il est clair que si c'est la famille Peugeot qui décide de ce qui est travail en matière de transport, il n'y aura que des autoroutes et des bagnoles. Il n'y aura pas de canaux et de péniches, il n'y aura pas de voies ferrées et de chemins de fer. C'est-à-dire que l'activité, le travail concret, de ce point de vue-là, est déterminé par la pratique et la définition dominante du travail. On est bien, encore une fois, au cœur des rapports sociaux. Hein, qui travaille ? Donc, la solidarité capitaliste, elle va définir des catégories par leur manque, parce que ils n'ont pas de peau, ils ne sont pas productifs, ils sont victimes, et il s'agit de les aider. On ne va pas les faire crever, ces gens-là, d'accord ? Puis en plus, s'il y a de moins en moins de travail, on va distribuer un revenu de base pour tout le monde. Comme ça, on ne sera pas discriminant, il n'y aura pas de flicage, il n'y aura pas de gens qui renonceront à leurs droits, ce sera universel. Vous voyez, toute cette petite chanson répugnante de la solidarité capitaliste, moi, ça me sort de mes gonds, personnellement. Hein.
Un agriculteur, un entrepreneur ne touche pas le chômage. Or, ce n'est plus un risque individuel sur lequel on peut se couvrir individuellement. C'est devenu un risque économique et social qui est lié aux perturbations de l'économie. Et on ne le prend pas en compte. Puis la deuxième chose, c'est que ça pèse sur le travail. Parce que c'est financé par les cotisations. Et c'est pour ça que je propose de supprimer les cotisations sociales salariales qui le financent pour le transférer vers la CSG. Ce qui constituera un gain de pouvoir d'achat pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a progressivement fait en 20 ans sur la maladie. Et donc c'est parce que je transforme notre chômage en une prestation universelle comme la maladie que je propose en même temps de mieux le contrôler. Et donc oui, tout le monde y a droit, y compris quelqu'un qui voudrait tous les 5 ans démissionner, mais en même temps, j'équilibre le système en ayant un vrai contrôle, c'est-à-dire en faisant que au bout de 2 offres décentes d'emploi, vous ne pouvez pas refuser, sinon vous perdez le chômage. Mais il y a un point important, c'est que
tant
je l'ai...
Quand la droite proposait ce système-là, ça faisait hurler quand même.
Mais moi, ça ne m'a jamais fait hurler, vous savez. Mais je n'ai jamais été dans le réflexe pavlovien. Mais il faut le faire. Mais pourquoi les gens qui me proposaient à une époque étaient faibles sur leur base ? Parce que c'était une assurance. Et les gens venaient leur dire, moi, j'ai cotisé pour avoir droit au chômage. Vous n'avez pas à venir me contrôler. Là, je dis, c'est payé par l'impôt. Donc je suis légitime à contrôler, puisque c'est tout le monde qui paye. Mais cette réforme, elle sort de 2 hypocrisies. La première, c'est que quand je dis quelqu'un qui démissionne tous les 5 ans doit pouvoir y avoir droit. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a cette fameuse rupture conventionnelle.
Avoir droit avec une limitation, quand même.
Avec une limitation qui existe.
Vous n'y touchez pas.
Non, avec la limitation qui existe. Mais parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Il y a eu des abus sur la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle, c'est la moitié des ruptures individuelles. Donc les gens vont toucher le chômage alors que c'est une démission déguisée. Donc de toute façon, le système est contourné. Et quand vous n'obtenez pas, parlons très concrètement, nos concitoyens qui nous écoutent le savent très bien, quand celui qui veut démissionner n'obtient pas la rupture conventionnelle, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « t'es pas d'accord ? Très bien. Je vais me mettre en maladie. » Et puis il finit par se faire licencier et il va au prud'homme. C'est une source de contentieux infini.
Et vous gardez quand même la mesure de la rupture conventionnelle, vous la
Je garde la rupture conventionnelle parce que c'est un élément de flexibilité. Je sécurise la rupture individuelle en allant au bout de la réforme des prud'hommes que j'ai commencé à porter. Parce que parfois, ceux qui se disent comme les grands tartarins de Tarascon de la réforme du droit du travail qui n'ont jamais rien fait quand ils ont été aux manettes, n'ont pas touché aux prud'hommes. Quand j'ai été ministre, j'ai réformé les prud'hommes. Je souhaite aller au bout de cela en mettant le plafond.
La perspective du projet de Macron, c'est la poursuite d'une contre-révolution capitaliste qui est engagée depuis le milieu des années 80 à peu près, hein, depuis ce qu'on appelle le tournant de la rigueur avec Delors, Bérégovoy, Fabius, etc. Et qui va être mis en musique vraiment par Rocard. C'est le gouvernement Rocard qui met en musique tout ce qui se passe depuis. Et Macron continue, c'est un bébé Rocard comme les autres, comme Hamon, comme toute la bande. Et donc, le projet, là, il ne l'aborde que sous un aspect. Mais quand il fait la référence à la maladie, on voit très bien que son projet en matière de chômage, il a deux dimensions. Lorsque Jospin remplace la cotisation salariée à l'assurance maladie par la CSG, hein, et ce que veut faire Macron, c'est remplacer la cotisation salariée au chômage par la CSG, il crée deux types très différents de couverture de la santé et de production de la santé, de financement de la production de la santé. En quoi c'est une énorme régression sociale ? C'est une énorme régression sociale parce que, la maladie va être produite selon deux modalités très différentes. Un premier pilier qui va être assuré par un régime public et financé par l'impôt, la CSG, et qui va faire les soins de santé les plus lourds et accueillir en urgence, dans les urgences, le tout venant, sans lui demander quel est son niveau de cotisation. C'est une prestation universelle d'un minimum de couverture du besoin de santé produite dans une logique de non-marchande. Et puis, le deuxième, parce qu'avec ça, on ne couvre pas les besoins de santé hein, en totalité. Et puis, vous avez un deuxième pilier, qui est les complémentaires. Et qu'il s'agit de sortir de la marginalité dans laquelle ils étaient en train d'entrer lorsque l'assurance maladie, progressivement de 45 aux années 80, couvrait toute la production. Hein, et puis les régimes complémentaires étaient en voie de disparition. C'est ça qui se joue jusqu'en 85. Et à partir de 85, changement du code de la mutualité. 87, suppression de la cotisation salariée et remplacement par la CSG. 89, loi Evin. Là, il s'agit 2013, Annie, sur l'obligation des régimes complémentaires. 2014, transcription dans la loi de cet accord national interprofessionnel CFDT-MEDEF. Là, il s'agit de créer un second pilier de production de santé, où là nous sommes dans une toute autre logique. C'est la logique que la sécurité sociale. C'est la logique j'ai cotisé, j'ai droit à temps. Dans la sécurité sociale, la logique c'est chacun contribue selon ses moyens et à des prestations selon ses besoins. Donc on sort de la sécurité sociale par les deux bouts, hein. On sort du régime général de la sécurité sociale par les deux bouts. Un bout qu'on fiscalise pour faire un panier de soins universel, et puis un bout extrêmement contributif dans lequel une industrie de la santé va se mettre en place. Je rappelle que les mutuelles et les institutions paritaires gèrent 28 milliards de prestations, essentiellement de santé, un peu de vieillesse, pour un coût de gestion de 11 milliards. Donc 1 euro cotisé chez une mutuelle, il y en a 40% qui vont en coût de gestion, dont 2,5 milliards de frais financiers, parce qu'elles vont sur les marchés des capitaux. Elles alimentent le marché des capitaux. Si vous prenez le régime général, qui ne gère pas que la maladie, qui gère 345 milliards pour la maladie, pour les allocations familiales et pour une partie de la vieillesse, les coûts de gestion sont de 11 milliards. 11 milliards pour 345 milliards à comparer aux 11 milliards pour 28 milliards. Et frais financiers, zéro. La trésorerie du régime général, quand vous gérez 345 milliards, c'est-à-dire que vous avez 1 milliard par jour de trésorerie. Vous n'allez pas sur le marché des capitaux. Votre trésorerie est bien suffisante. Donc, il s'agit de remplacer un dispositif de sécurité sociale par un dispositif d'institutions financières qui vont assurer les prestations de santé et leur couverture. L'enjeu pour les réformateurs, pour Macron, pour le MEDEF, pour La République En Marche et les socialistes, enfin pour tous ceux qui se succèdent au pouvoir, l'enjeu c'est que la cotisation patronale aille, la seule qui reste, aille non plus au régime général, mais au régime complémentaire. Ce sont les régimes complémentaires adossés au marché des capitaux qui sont des entreprises au sens européen du terme, parce que tout ça, c'est évidemment la jurisprudence de Luxembourg, ne peut rester un monopole public que ce qui assure de la solidarité fiscale. Et puis, vous allez avoir des entreprises européennes, mais c'est déjà le cas. La MGEN, c'est lié à Harmonie, d'accord, et c'est le début d'une entreprise européenne de santé qui vont à la fois gérer des établissements, bien sûr, et puis qui vont fournir des prestations sur la base du... les prestations sont dues en fonction des contributions. La proposition de Macron en matière de chômage, c'est exactement la même. Nous allons financer... Alors, on supprime la cotisation salariée à l'UNEDIC, on le remplace par la CSG, c'est ce qu'a fait Jospin. Le projet de Macron qu'il vient d'expliquer, c'est que nous allons avoir un forfait universel, à l'anglaise, qui va être, de 400, 600 balles par mois, j'en sais rien, moi. Il n'a pas annoncé ça. Ce forfait universel va être financé par CSG. Donc, les travailleurs indépendants, les salariés démissionnaires, tout le monde aura droit à ce forfait universel. Mais si vous voulez avoir plus, si vous estimez que, comme chômeur, vous avez droit à votre salaire et non pas à 600 balles, alors là, va falloir raquer. Va falloir raquer, et c'est pour ça que l'accord de 2010 entre le MEDEF et l'inévitable CFDT, c'est un jour presté égale un jour cotisé. C'est-à-dire, j'ai cotisé, j'ai droit. Je n'ai des droits qu'à la mesure de mes cotisations. Là, il va falloir raquer. Cette indemnisation, il faudra d'autant plus raquer que vous avez vu que l'indemnisation... universelle sera supprimée si vous refusez deux emplois décents. Et les emplois décents n'ont rien à voir avec la qualification. Donc, il y aura une stricte contributivité des prestations de chômage au-delà des 5, 6, je ne sais pas combien, 100 euros du minimum financé par CSG. Et il sera conditionné par l'obligation de se former.
Et ce que je propose, c'est une transformation en profondeur de notre organisation de la formation professionnelle. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand vous dépensez 100 euros en formation professionnelle, il n'y a que 15 euros qui vont vers les chômeurs.
Même 10 euros seulement d'ailleurs, selon certaines estimations.
15 parce qu'il y a le plan récent qui a été fait. Mais en moyenne, si vous prenez la dernière décennie, 10 euros. C'est évidemment insuffisant, c'est même contre nos intérêts. Et donc ce que je fais, c'est au premier mois du chômage, il y a un bilan de compétences avec, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas les qualifications qui permettent de rebondir, d'avoir un vrai plan de formation qui peut être un plan de formation long, lourd, 6 mois, 1 an. Et c'est pour cela que, dans mon projet, il y a 15 milliards d'euros qui seront investis sur les plus jeunes, mais aussi les moins jeunes.
Oui, ben là, on a bien la confirmation de ce que je raconte. Il s'agit de lier de façon étroite l'indemnisation du chômage à l'obligation de se former. C'est présenté comme une opportunité, mais ce sera une obligation, et d'injecter beaucoup d'argent public. Encore que 15 milliards sur 5 ans, c'est quand même pas grand-chose. Ça fait beaucoup comme ça, on a l'impression. Mais enfin, 3 milliards par an... C'est extrêmement peu de choses, cela dit, de soutenir donc la création d'une industrie de la formation qui, elle, se générera des ressources à partir des contributions patronales. Hein, ça, les patrons sont évidemment prêts à entretenir cette industrie de la formation.
Que nous avons pris la décision d'aller vers un système de retraite plus transparent et efficace. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Cela est fait depuis 20 ans, ce sont des mesures de changement paramétriques qui ne changent pas la philosophie du système ni n'améliorent la confiance qu'ont les jeunes ou les moins jeunes en celui-ci. Tous les sondages le montrent. Je ne proposerai pas de changer l'indemnisation des retraités. On ne peut pas faire la réforme de notre système de retraite en réduisant le pouvoir d'achat de celles et ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Et donc, à cet égard, tous les paramètres actuels seront préservés. Mais nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. Mais il y aura la possibilité, en fonction de la cotisation faite tout au long de sa vie, de choisir aussi son âge de retraite en sachant pertinemment à quelle cotisation justement on a souscrit et quels sont les droits qu'on a ainsi acquis.
Il y a deux dimensions dans une intervention en vue d'étendre, hein, au-delà de la santé, au-delà de l'éducation, au-delà d'un certain nombre de lieux où, à travers des coopératives, certaines associations, une forme alternative du travail s'est constituée. Comme moyen d'action pour étendre cela, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est le fait de créer un espace suffisant pour que cette alternative puisse se construire. Par exemple, revendiquer que seules les entreprises qui sont la propriété de leurs salariés puissent répondre au marché public. Là, si les groupes capitalistes ne peuvent plus répondre au marché public, on les assèche pour une bonne part parce que une part extrêmement importante de leur valorisation se fait par les marchés publics. Il suffit de prendre le BTP, les autoroutes, mais n'importe quel autre secteur, la chimie évidemment en matière de médicaments, etc., etc. Donc, réserver les marchés publics, qui sont de l'argent public, il n'y a aucune raison qu'ils engraissent du capital, réserver les marchés publics à des entreprises qui sont la propriété de leurs salariés, ça va faire sortir les coopératives, etc., toutes les entreprises alternatives que beaucoup de jeunes diplômés aujourd'hui créent parce qu'ils sont dans une forme de dissidence, ils ne veulent pas entrer dans la logique capitaliste, et c'est extrêmement intéressant et à encourager vivement. Ça va sortir de la marginalité toute cette effervescence actuelle autour de l'alternative. Créer un espace aussi suffisant pour que des alternatives communistes puissent se poursuivre et s'étendre, c'est collecter une part suffisante de la valeur, ce qu'ont fait nos anciens en créant le régime général. Il faut reposer le même acte, hein. On collecte une partie suffisante de la valeur, on la gère nous-mêmes. Alors moi, dans le bouquin, je fais une proposition, un peu maximale pour le moment, et qu'il va falloir traiter tranche par tranche, je dirais, hein, de doubler les cotisations actuelles, de passer de 500 à 1000 milliards, 40% de cotisations supplémentaires pour les entreprises, en termes de pourcentage de leur valeur ajoutée, puisqu'il y a 1400 milliards, 1300 milliards de production marchande actuellement, compenser de sorte que ce soit une opération blanche pour les entreprises par un non-remboursement de 500 milliards de dettes. Les entreprises cotisent 40% de leur valeur ajoutée en plus que ce qu'elles versent comme salaire et cotisation aujourd'hui et ça ne leur coûte rien parce qu'elles ne remboursent pas 500 milliards de leurs dettes. Là, on est dans une proposition de type macroéconomique qu'il faut faire, dont on sait qu'on ne pourra pas la réaliser tout de suite, qu'il faut le faire bout par bout, hein, mais qui introduit un débat public que nous maîtrisons. On n'est plus dans l'agenda de nos adversaires, on n'est plus à être là à la remorque de leurs initiatives. C'est nous qui prenons l'initiative et qui rendons populaire l'illégitimité de s'endetter pour travailler. Il n'y a pas besoin de s'endetter pour travailler. Il suffit d'affecter une partie de la valeur que nous produisons à des caisses sous forme de cotisations d'investissement et des caisses que nous gérons nous-mêmes et qui subventionnent l'investissement. Ou alors, nous créons de la monnaie. Donc ça, c'est le premier type d'action. Hein. C'est se battre pour des institutions macroéconomiques de l'alternative, qui rendent possible l'élargissement de l'alternative communiste en termes de subventions, de l'investissement et en termes de salaire à vie. Une partie de ces 500 milliards ira non pas à l'investissement, mais à l'extension du salaire à vie, par exemple en maintenant le salaire à 100% entre deux emplois à durée indéterminée, en attribuant le premier niveau de qualification et 1 700 euros comme salaire lié à la personne aux premières cohortes, aux 18-22 ans par exemple, en attendant de l'étendre à tout le monde bien sûr. Il s'agit de créer un appel d'air pour le salaire à vie, en attribuant du salaire à tous ces jeunes diplômés qui créent des entreprises alternatives et qui souvent subsistent avec des prestations de services plus ou moins transformées en salaire dans des coopératives d'activité d'emploi ou dans, comme auto-entrepreneur ou en bricolant avec le RSA. Il faut sortir toutes ces personnes de l'aléa des ressources en leur attribuant un salaire à la qualification de 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros, enfin, ça dépend de leur niveau de qualification. Bref, on sait quoi faire dès lors que l'on veut étendre le salaire à vie, le salaire lié à la personne comme forme communiste de statut du producteur. Ça, c'est le premier type d'intervention. Le deuxième type d'intervention, il est micro, il est ici et maintenant, parce que là, on le conquiert progressivement, ça, bien sûr. Il faut aussi une bataille électorale victorieuse qui fait qu'on peut faire la loi qui rend illégales les dettes pour financer l'investissement, en fait, etc., etc. Et en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il y a une forte activité d'auto-organisation des travailleurs dans l'entreprise. Puisque, encore une fois, l'enjeu de la sortie du capitalisme par le communisme, c'est l'autodétermination des travailleurs. C'est l'auto-organisation des travailleurs, c'est la propriété d'usage. La propriété patrimoniale non lucrative, on vient de le voir à travers la subvention de l'investissement. Maintenant, la propriété d'usage de l'outil, le fait que ce soit ceux qui utilisent l'outil qui décident concrètement, ce qui fait que le travail est intéressant. Si nous allons entraînant les pieds au boulot, c'est parce que nous ne décidons pas de l'essentiel. C'est ça qui est extrêmement souffrant. L'origine de la souffrance au travail, c'est qu'on ne décide pas de l'essentiel. On est invité en permanence à mobiliser nos compétences, etc., etc. Mais alors même qu'on est irresponsabilisé sur l'essentiel, là, il s'agit au contraire, et ça peut être des formes nouvelles de mobilisation et qui vont d'ailleurs être vigoureusement combattu par l'appareil judiciaire et répressif. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Il faut s'attendre à un combat extrêmement difficile. C'est que faire grève, ça n'est pas arrêter la production, c'est la produire nous-mêmes. Ça, c'est tout à fait autre chose. Hein. Il s'agit de sortir d'une logique où on arrête l'outil pour une logique où on décide nous-mêmes de ce que nous faisons avec l'outil. Je consacrais tout le temps militant à l'auto-organisation des travailleurs, évidemment. Je ne vois pas d'autre issue pour nos mobilisations. On ne va pas recommencer les processions d'érogation où on demande la pluie à chaque automne, toutes les trois semaines, en attendant l'échec.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.